J'ai moins de 2 minutes pour vous lire le texte de Eric de Meester qui est ici dans le micro ouvert qu'on va entendre là tout de suite. Un micro ouvert qui date de vraiment des derniers jours du mois de septembre, quoi. Tandis qu'une grande partie de la gauche ne voit qu'une montée des droites et de l'extrême droite. Mobilisation révolutionnaire en Serbie pour renverser le gouvernement d'octobre 2024 à aujourd'hui. Février 2025, la plus grande grève générale de l'histoire de la Grèce. Juin, mobilisation de masse aux États-Unis contre les rafles d'immigrés. La No King's Day représente la plus massive des journées de manifestation dans l'histoire des États-Unis. Juillet, lancement du nouveau parti de gauche radicale de Corbyn au Royaume-Uni avec 800 000 adhérents. Juillet, un candidat démocrate se qualifiant de socialiste et pro-palestinien, Mamdani remporte l'investiture pour la mairie de New York, la plus grande ville des États-Unis, avec plus de 600 000 voix soutenues par une plateforme de 42 000 bénévoles. Et bon, on apprend ce matin que Mamdani est maire de New York. Voilà. Août, révolution en Indonésie. Août, 350 000 manifestants en Australie lors d'une journée nationale de protestation contre le génocide à Gaza. Septembre, révolution au Népal. Septembre, mobilisation de masse en France. Le 10 du 9 contre la politique d'austérité sociale de Macron, suivi d'une grève générale le 18 du 9. Au Royaume-Uni, des dizaines de milliers de personnes défient la criminalisation du groupe Action Palestine comme terroriste lors d'actions massives dans tout le pays. Des milliers de personnes ont été arrêtées et accusées de terrorisme pour avoir soutenu ce groupe. Septembre, 120 000 participants à la manifestation Carton Rouge à Bruxelles. Septembre, défaite électorale écrasante de Milei en Argentine dans la province de Buenos Aires, qui concentre 40% de la population du pays. Septembre, 100 000 personnes manifestent en Nouvelle-Zélande contre le génocide à Gaza, la plus grande manifestation de l'histoire du pays. Septembre, une mobilisation de 100 000 personnes à Madrid empêche la poursuite du Tour d'Espagne à vélo en protestation contre la présence d'une équipe israélienne. Tout au long du Tour, au cours des 2 semaines précédentes, des milliers d'autres personnes ont manifesté leur rejet tout au long du parcours. Septembre encore, coup de tonnerre social avec 2 grandes journées de manifestations et de grèves en France. Septembre, les syndicats italiens appellent à des grèves pour la Palestine. Septembre, la jeunesse de Timor Oriental emboîte le pas aux jeunes d'Indonésie et descendent en grand nombre dans les rues de la capitale. Septembre, manifestation massive au Pérou contre la corruption, la contre-réforme des pensions et la présidente usurpatrice Baluarte. Septembre, c'est au tour de la jeunesse des Philippines de prendre la rue en grand nombre. Il reste encore 8 jours avant d'arriver à la fin du mois.
Micro ouvert.
3-4. On se retrouve à Saint-Gilles. C'est rue Klunratz. Comment on dit ?
Klunratz, numéro 51 à Saint-Gilles, dans le bas de Saint-Gilles.
Ah, vous donnez carrément votre adresse, vous ?
Bah oui, pourquoi pas ?
Ah ouais, pourquoi pas ? Et ça veut dire quoi
C'est un nom d'une personne. C'est-à-dire qu'il est totalement inconnu, au fait.
Totalement inconnu.
La personne m'est totalement inconnue. Mais je suis dans le bas de Saint-Gilles, c'est peut-être l'essentiel.
Ouais, mais c'est toujours intéressant de savoir le nom de sa rue, tiens, pourquoi, comment. Ça raconte aussi plein d'histoires, évidemment, ça. Mais on ne sait jamais.
Oui.
Et donc, on se rencontre, Eric, c'est de Meester. En néerlandais, c'est quoi, de maître,
hein. Oui, malheureusement, oui.
Pourquoi malheureusement?
Ça fait un peu arrogant, non?
Ah, ça dépend, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, on se rencontre, pourquoi? Parce que... vous avez écrit vous-même un texte qui commençait comme ça, mais il n'y a pas que ça à retenir. Mais disons que ça commençait. Tandis qu'une grande partie de la gauche ne voit qu'une montée des droites et de l'extrême droite. Voilà, ça c'était le titre. Et ensuite, vous énumériez plein de pays qui se bougent, qui luttent, qui... C'est ça, hein ?
Oui, c'est tout à fait ça. Ma première réaction, c'était... un peu de fatigue face à une grande partie de la gauche qui ne voit que la montée de la droite et de l'extrême droite dans le monde. Je ne la nie pas. C'est difficile à nier, il ne faut pas la nier. Parce qu'en ce moment-là, on ne verrait pas le danger.
On verrait pas le réel, quoi.
On verrait pas le réel, mais il n'y a pas que ça, en fait, dans le monde. Et donc, il y a une bonne partie de la gauche qui, à mon avis, s'auto-démoralise en focalisant sur la montée de la droite et de l'extrême droite et ne voit pas, en fait, ce qui se passe à gauche. Et une partie de la gauche qui ne regarde qu'à droite, c'est paradoxal, mais ne regarde pas à gauche. Et puis, je me suis mis à réfléchir. Je me dis, mais en fait, depuis moins d'un an, on assiste en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Amérique latine, à une montée en puissance de mouvements sociaux, de grèves de masse, grèves politiques, de protestations radicales, voire même de situations insurrectionnelles, voire révolutionnaires. Et donc j'ai commencé à énumérer tout ça. Et visiblement, ça touchait une corde sensible. C'est toute une série de personnes qui ont réagi. En fait, tu as raison. Et il n'y a pas que des raisons pour être pessimiste. On peut être optimiste aussi. Et mon idée essentielle, avant d'énumérer ou de donner quelques exemples, c'est de dire on assiste beaucoup plus à une polarisation dans le monde. Une polarisation à droite et une polarisation à gauche. C'est qu'il y a une énorme colère sociale, politique, qui est démagogiquement exploité par la droite et l'extrême droite, ça c'est évident, mais qui, en ce moment-ci, depuis quelques mois, et en particulier le mois de septembre, produit autre chose, produit une réaction qui n'est pas de droite ou d'extrême droite, qui n'est pas une réaction raciste, qui n'est pas une réaction démagogique ou populiste, mais qui est véritablement une prise en main par les gens eux-mêmes de leur destin, en tout cas une tentative de prendre en main, dire leur destin. Et ça, c'est extraordinaire, et ça vaut la peine d'être souligné. Et surtout le mois de septembre, on est quoi? On est le 30 septembre aujourd'hui, le mois fini.
Demain, quoi? Demain, voilà. On est le 30.
Probablement ce mois, peut-être que certains appellent septembre rouge, pourrait continuer en octobre. Très probablement, il va continuer en octobre. Mais être aveugle face à ces processus-là, je trouve que c'est pas autorisé, en fait. Si on veut faire une analyse sérieuse de la situation mondiale. Et surtout si on veut lutter contre la droite et l'extrême droite. Prenons l'exemple de l'Italie. Meloni est au pouvoir, depuis quoi? 2 ans et demi, 3 ans.
Donc, il faut le dire, on ne sait jamais, extrême droite, quoi, au pouvoir.
Voilà. Et c'est vrai que pendant 2 ans, 2 ans et demi, il n'y a pratiquement pas eu de mouvement. Mais là, tout d'un coup, entre guillemets, sur la question de Gaza, de l'anéantissement de Gaza, d'une indignation face à une double morale des gouvernants de ce monde, de la soi-disant communauté internationale, face à la passivité voulue, l'impuissance voulue aussi des gouvernants, et en particulier en Italie, tout d'un coup, en quelques jours, il y a un mouvement de masse qui éclate. Et donc, c'est assez extraordinaire. On assiste à un basculement d'une bonne partie de la population. Elle n'est pas encore majoritaire. Les sondages, oui, indiquent qu'elle est majoritaire, dans le sens qu'elle veut des sanctions en Italie, qu'elle veut que le gouvernement agisse, qu'il y a une solidarité avec la flottille. Mais on voit clairement que ce télescope dans ces mouvements en Italie, plus que simplement, entre guillemets, simplement, une solidarité de Gaza. On y voit le rejet de la militarisation. Et on y voit aussi le rejet de l'austérité. Et une partie de la population, les travailleurs en particulier, redécouvrent leur force. Et donc c'est quand même très important à souligner. Qu'est-ce que je veux dire par « ils retrouvent leur force » Ben, ils retrouvent leur force dans le sens, premièrement, les dockers, les travailleurs portuaires, ont commencé à bloquer les ports et à bloquer les transports d'armes vers Israël. Là, par exemple, la semaine passée, pendant 3 jours, lycéens et ouvriers du port de Livourne ont bloqué le port ensemble pendant 3 jours, jour et nuit, pour empêcher qu'un bateau avec des armes américaines soit affrété vers Israël. Et ils ont réussi. Donc, ça vaut beaucoup plus que des centaines de tracts, que des milliers de discours. Dans la pratique, les gens ont dit « Merde, On a un pouvoir. Et travailleurs et jeunes peuvent s'unir. Ils peuvent parler le même langage, qui est souvent pas l'OTA dans la vie quotidienne. Un ouvrier portuaire et un lycéen ne parlent pas, ne se rencontrent pas, ou très peu. Et là, ils retrouvent un langage commun. Et donc, c'est ça que je voulais souligner. Là, il y a une digue, à mon avis, psychologique, qui a été rompue en Italie. La digue de on est impuissant, on ne sait rien faire, on est tous individualistes, personne ne veut bouger. Et tout d'un coup, ça a bougé. Il y a toute une genèse qui explique ça. Mais ce que je voulais surtout souligner, c'est qu'il y a ça, il y a eu la France aussi, quelques semaines auparavant, avec le 10 septembre. Tout d'un coup aussi, c'est un groupe quoi, obscur, au mois de juillet, peut-être dans la mouvance ou la galaxie de droite ou extrême droite, qui lance l'idée « bloquons tout le 10 septembre », au retour de la vie politique officielle dans l'Hexagone. Et au début, une bonne partie de la gauche était méfiante. Un peu la même méfiance existait il y a 5 ou 6 ans par rapport aux gilets jaunes. Mais rapidement, on s'est rendu compte que ce qui motivait les gens, ce n'est pas la migration, ou les thèmes d'extrême droite, c'est des thèmes de gauche. Et via un mouvement d'en bas, au fait, qui était d'abord propulsé par aucune organisation, on assiste à une tentative de blocage le 10 septembre, qui aboutit au fait à une nouvelle journée d'action le 18 septembre, avec l'appui des syndicats, qui n'avaient pas le choix au fait de reprendre cette idée-là, et une nouvelle dynamique de mouvement social démarré par le bas. Et ça, ça vaut la peine aussi de souligner en Italie, c'est que le mouvement a commencé par le bas. Il y a aucune... Oui, il y a un petit syndicat, l'USB, qui a lancé cette idée de grève générale.
C'est quoi l'USB ?
C'est Union des syndicats de base en Italie. C'est un petit syndicat très combatif, très à gauche, mais qui probablement, dans les situations normales, n'attire pas autant de foule. Mais parce qu'il a eu la bonne idée de lancer le bon slogan, la bonne proposition au bon moment, l'idée d'une grève de 24 heures pour la Palestine, bloquons tout, qui a repris l'idée des Français. En fait, c'est extraordinaire.
Ça devient international, quoi.
Exactement, exactement. Et donc, je crois que c'est une des caractéristiques de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces initiatives-là, on parle de l'Indonésie, du Népal plus récemment, mais ne partent pas des organisations qui ont pignon sur rue. Ça vient de la base. Ça vient de la base. Et ça, c'est super important. Ça montre que le discrédit qui existe face aux institutions d'État affecte aussi les grandes organisations de gauche et qui sont aussi largement discréditées. Probablement pas toutes, mais une bonne partie sont discréditées. Les dirigeants syndicaux, des syndicats très bureaucratisés, ceux-là sont discrédités. Et donc maintenant, ils courent derrière le mouvement. En Italie, la CGIL, le grand syndicat...
Ils courent derrière.
Ils courent derrière. Donc maintenant, ils ont lancé un appel pour cette semaine à une grève générale de 24 heures. Et ce petit syndicat, USB, qui il y a encore une semaine était méprisé par la CGIL. Non, 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 ça va. Personne ne va aller à votre manif.
Il était méprisé par qui ? Par la grosse institution.
Par la grosse confédération syndicale qu'il a méprisée. Non, non, personne ne va venir à votre appel, vous êtes minuscule, etc. Et en partie, c'est vrai, ils sont petits. Mais on remarque que quand même des petites organisations de base, mais qui lancent des idées, qui connectent avec un état d'esprit, eh bien, les gens sont prêts à bouger.
Mais quoi, Eric, c'est comme ça que ça s'est passé ? Je tutoie facilement. C'est comme ça qu'il y a eu un mouvement de masse dans la rue. C'est parce que une petite... Tu t'es renseigné
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est clair, mais c'est parce que c'est connecté avec un état d'esprit, de disposition, où les gens disent à un moment donné, ben non, on ne peut plus ne rien faire. Il faut faire quelque chose. Il est possible de faire quelque chose. Et puis on se rend compte, en fait, on a de la force. On a de la force. On passe d'un sentiment d'impuissance, d'individualisme, à un sentiment de collectif. d'action directe de masse et de force. On présente une force. Et surtout parmi les travailleurs, spécifiquement les travailleurs dans les ports d'Italie. Mais j'ai entendu ce week-end qu'il y a eu une conférence internationale des dockers en Europe. Qui s'est dit aussi, cette semaine-ci, on va essayer de bloquer d'autres ports. C'est déjà été le cas à Marseille, à Fos-sur-Mer, à Barcelone, en Grèce, à Gênes, à Livourne, en Suède aussi. On regarde souvent vers le sud, mais aussi le nord bouge. Et donc je crois que tout ça, on devrait le cadrer dans un mouvement de révolte généralisée. Ce n'est pas le cas partout dans tous les pays, ça c'est évident. Mais
ça donne de la force hein, de savoir que d'autres gens se bougent et gagnent.
Tout à fait. Je crois qu'il y a eu là, au mois d'août, l'Indonésie, où il y a eu une insurrection des jeunes. Il faut d'abord voir qu'est-ce qui a motivé ces jeunes en Indonésie. Ben, c'est un sentiment d'indignation morale face au privilège des parlementaires qui venaient de s'octroyer des avantages scandaleux qui représentaient jusqu'à 50% du salaire moyen des Indonésiens.
Oui, mais c'est toujours un peu la même chose. Je veux dire, on comprend pourquoi les gens sont dans la rue, non?
Oui.
Parce qu'on peut, comment dire, si tu y tiens, on peut énumérer le pourquoi du comment, mais on comprend.
Tout à fait.
Moi, j'avais envie de poser plus la... Qui es-tu? Qui... T'es pas obligé de répondre, hein, mais quoi?
Moi, je suis un militant communiste, révolutionnaire.
Ça va ensemble, ça?
Oui, ça
souvent,
va.
Souvent, je croyais. Mais moi, je connais, j'ai pas une bonne. Comment dire? Je connais pas bien l'histoire hein, du communisme et tout ça, mais je croyais que c'était deux choses. Faire la révolution, c'est une chose, et être communiste, c'est plus institutionnel. Ça ne va pas ensemble avec la révolution.
Je suis pas un communiste institutionnel du tout. Pas du tout.
Je sais qu'à l'origine, le communisme était révolutionnaire. L'origine. Mais il y a bien longtemps.
Disons que je veux retourner à cette origine, ou que j'essaye de diffuser ça. Oui, je fais partie d'une organisation, elle s'appelle l'Organisation communiste révolutionnaire, on fait partie de l'international, on suit les événements.
Mais encore aujourd'hui, tu es militant?
Toujours aujourd'hui, oui. Je suis depuis que j'ai 16 ans. Donc,
et quoi, ça veut dire que tu vas dans la rue, tu manifestes, etc.
Oui, on produit une revue qui s'appelle Révolution, on produit un site web, un compte Instagram, on est communiste du 21e siècle, du 21e siècle, donc on est aussi sur les réseaux, et c'est super important, parce que beaucoup de jeunes sont sur les réseaux aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont plus confiance dans l'information officielle, institutionnelle, etc. Et donc, de ce point de vue-là, oui, j'essaye d'analyser et je participe aux luttes d'aujourd'hui, aussi bien en particulier maintenant la lutte sur la question de la Palestine ou contre l'Arizona, contre le gouvernement de l'Arizona. Et je crois que tout ça va ensemble aujourd'hui. Il faut télescoper les luttes, il faut les faire converger sur Gaza, sur la militarisation, sur l'austérité brutale qu'on essaie de nous imposer. Contre toutes les oppressions, c'est un même combat. Alors, si je peux revenir sur un peu les caractéristiques de ce mouvement...
Je te laisse mener la danse. Hein. Moi, je pose des questions, je vais par là, mais c'est toi qui... Vas-y, n'hésite pas.
C'est que, en effet, là, depuis le mois d'août, on a vu l'Indonésie qui a explosé. Suite à ça, très vite après, il y a eu le Népal. Le Népal, où là, on voit les jeunes... ont été indignés par la corruption, par le népotisme, par les privilèges que s'octroient les parlementaires et la caste dirigeante. Et le régime a pensé que par la répression, en bloquant les réseaux sociaux, grosse erreur de leur part, ils pensent bloquer les réseaux sociaux, les jeunes ne vont plus pouvoir communiquer entre eux. Mais ils ont réussi, par plusieurs moyens, de continuer à communiquer entre eux. Et on renverse le gouvernement. Et ils sont même allés plus loin. On incendié le Parlement, on poursuivi des ministres.
Où ça?
Au Népal. Un petit pays. Mais
en bas des montagnes.
Voilà.
L'Himalaya.
Oui, voilà. C'est probablement un des pays les plus élevés au monde. Mais l'image qui a frappé une bonne partie de la jeunesse, c'est celui d'un parlement et d'un bâtiment gouvernemental en feu, incendié. Après ça, il y a eu le Timor oriental, petit pays, indépendant depuis 25 ans, où les jeunes aussi ont réagi face à la corruption, face aux privilèges des parlementaires. Et puis après, il y a eu le Pérou, la même chose. Il y a l'Équateur aussi, où il y a une grève générale. Et maintenant, depuis la semaine passée, c'est le Madagascar, ancienne colonie française, où les jeunes sont dans la rue. La police a réprimé brutalement. Il y a eu 20 jeunes tués par la police. Ouais. Aujourd'hui, ça aboutit à une grève générale dans tout le pays. Et donc, c'est quand même remarquable ce à quoi on assiste. Ce qui est remarquable aussi, c'est la vitesse de contagion. C'est que c'est pas seulement les réseaux sociaux qui facilitent la vitesse de contagion, c'est que il y a des conditions tellement spécifiques dans chaque pays. Mais comme tu disais au début, oui, on connaît les raisons. Oui, on connaît les raisons des révoltes, des indignations. Et en fait, ce sont ces mêmes conditions, enfin, à mon niveau matériel, social, politique, qui créent le même type de réaction. Tôt ou tard, il y aura ça. Et donc,
c'est tôt, ça. Tôt ou tard, toi. Quoi, tu as confiance, tu te dis, ici aussi, du coup, alors à un moment donné, les gens vont... Oui, mais parce que moi, j'écoute tout ce que tu dis et c'est génial, hein, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que ça vaut la peine de se pencher dessus. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on met en place, quoi, hein, c'est la grosse... Parce que les gilets jaunes, on se rappelle, ça part aussi de la base, hein, eux. sans vraiment d'organisation, clairement, là. Hein. Mm-hmm. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, il y a peut-être une réflexion par rapport à tout ça. C'est vrai qu'il ne suffit pas de gueuler, de casser. Et moi, je n'ai aucun problème avec ça. Hein. C'est une manière de changer de système, quoi. Mm-hmm. Mais après, on fait comment ? C'est ça aussi, c'est la grosse question, quoi.
Ce que tu dis est très, très pertinent. Et c'est là la faiblesse de ces mouvements. Je crois que... la force, c'est la spontanéité, l'action directe de masse, manifestation, grève, affrontement avec la police et les militaires, de ne pas avoir peur d'eux, c'est important. Donc cette peur, elle a disparu dans plein de pays, malgré la répression. Mais le drame est en effet, c'est que, par exemple, au Népal, ils ont renversé le gouvernement, mais rien ne remplace actuellement l'ancien gouvernement.
Quoi, c'est en stand-by pour le moment ?
C'est en stand-by. On est dans une situation de...
Qui va prendre le pouvoir ? L'armée, la droite dure, la gauche, parce que la gauche, à ce moment-là, celle qui est politisée, institutionnalisée, elle peut aussi faire quelque chose, non ?
Oui, mais elle est institutionnelle. Et en fait, ce qui manque cruellement, je dirais, c'est justement cette alternative... politique révolutionnaire, c'est-à-dire on sait ce qu'on ne veut pas, et c'est radical, on sait ce qu'on veut rejeter, de façon très ferme et très claire, mais on n'a pas une idée claire comment on peut remplacer ce qui existe. Et donc, oui, dans la mesure où ça n'existe pas, les élites retrouvent l'initiative, au nouveau une marge de manœuvre, pour profiter de la situation de confusion, de manque de clarté, pour faire quelques concessions, certes, quelques réformes, mais essentiellement changer des choses pour que rien ne change. Réformer pour éviter une révolution, pour éviter véritablement une remise en cause de leur système, de leur pouvoir, etc.
Mais Eric, tu penses vraiment... moi, j'ai pas de... Enfin, la gauche et la droite, pour toi, institutionnelle, c'est la même chose ?
Parce
que je discutais dans la rue avec les gens, et c'est vraiment ça, les gens en ont ras-le-bol, gauche, droite, c'est tous des pourris, quoi, en gros. Et je disais quand même, dans l'histoire avec un grand H, c'est pas la même chose, quoi, elle défend pas la même chose, même si aujourd'hui, la gauche et la droite, c'est la même chose. Est-ce que tu comprends ce que je dis ?
Oui, je comprends tout à fait. Par exemple, c'est typique dans des pays comme l'Indonésie ou le Népal ou plein d'autres pays, c'est quand les jeunes se révoltent. Ils se révoltent pas seulement contre les gouvernements en place, contre les majorités, mais ils se révoltent aussi contre les oppositions au Parlement, qui mettent dans un même sac. Certains pourraient dire oui, c'est de la démagogie, c'est un manque de discernement. Non, je crois qu'ils ont souvent très raison. C'est surtout une gauche molle, veut dire qu'ils rejettent.
C'est une gauche capitaliste aussi.
Exactement. Une gauche réformiste qui n'offre même plus de réformes, qui est totalement intégrée au système. C'est cette gauche-là que les gens rejettent. Et je leur donne pas tort, loin de là, je leur donne tout à fait raison. Mais je crois qu'il y a une autre gauche, veut dire, qui doit surgir, veut dire de.
Mais elle est où? Elle vient d'où? Enfin, comment faire?
Je crois qu'il y a des groupes, veut dire, qui se disent communistes, révolutionnaires, qui sont pas communistes institutionnels, comme tu dis, qui gagnent du terrain, veut dire, dans ces mouvements-là. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais c'est ça. Sinon, on retourne dans un cycle d'explosion sociale, de renversement de régime.
Une répression encore plus forte.
Une répression, et l'ancien revient sous une nouvelle forme, offre les promesses de changement, mais sans rien véritablement changer. Et ce cycle-là, ce cycle infernal, c'est celui-là qu'il faut rompre. C'est celui-là, c'est cette tâche-là que je me suis donnée. On n'est pas nombreux, hein, mais je crois que je remarque qu'il y a beaucoup plus de disposition à l'écoute de ce genre de discours et d'analyse aujourd'hui, en Belgique et dans d'autres pays aussi.
À la tienne, c'est de l'eau. Hein. Si je... J'avais aussi envie d'aborder cette idée que, bon, avec ton titre, hein, tandis qu'une grande partie de la gauche, donc là, on se comprend bien, c'était aussi une de mes questions, mais de quelle gauche tu parles, quoi? Donc j'imagine que c'est cette gauche institutionnelle.
En partie, c'est la gauche institutionnelle, mais aussi une grande partie de la gauche radicale qui est un peu hypnotisée par la droite et l'extrême droite. Prenons Trump, par exemple. Trump, il est président, il bénéficie d'une majorité confortable à la Chambre des représentants aux États-Unis, etc. Mais Trump a utilisé et abusé de la colère sociale d'une bonne partie de la classe ouvrière. En fait, c'est un des rares politiciens qui, pendant les campagnes électorales, utilise le mot « classe ouvrière »,« working class ». Les démocrates, qui sont supposés être de gauche, n'utilisent pas ce terme-là.
Ils utilisent quoi?
Ils utilisent le peuple, etc. Ils ont dit aussi pendant la campagne électorale, au fait, la situation est très très bonne aux États-Unis. Les gens disent non, c'est pas vrai, la situation n'est pas bonne. Ils ont un discours très identitaire, dans lequel ils mettent seulement en avant la question des oppressions, de genre, de race, etc.
Ouais, ils se sont, comment on dit, embourgeoisés, quoi. Ils sont plus du tout avec les gens du peuple, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Et Trump, de façon démagogique, a joué la carte de la colère sociale. Il a promis plein de choses qu'il ne peut pas tenir. Et Trump essaye de mettre en avant son programme. Et souvent, quand on discute en militant de gauche, « Ah, Trump a fait ceci, Trump va faire cela, etc. » C'est grave. C'est grave, oui. Mais ce qu'on ne voit pas, ou ce qu'on ne veut pas voir, ou pas assez voir, c'est une réaction contre Trump. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au mois de juin, il y a eu une grande journée, ou c'était au mois de mai, la No Change Day, la journée sans roi. C'est contre Trump qui se pense un roi, etc., etc. Les chercheurs en histoire politique et sociale ont dit qu'on analysait les données. Ce jour-là, il y a eu plus de 5 millions de personnes dans les rues aux États-Unis, dans 160 villes différentes, dans 50 États différents. Eux disent que c'est probablement une des journées de manifestation les plus grandes dans l'histoire des États-Unis.
On n'a entendu parler.
On n'entend pas parler.
C'est vraiment arrivé.
C'est vraiment arrivé.
C'est des recherches, quoi. Hein, c'est pas...
Après chez nous, mais c'est arrivé aux États-Unis. Hein, on n'avait qu'à faire une recherche en ligne, vous le trouverez. C'est vrai qu'il y a la chasse aux immigrés, aux sans-papiers, qui est véritablement scandaleuse, odieuse, etc. Mais il y a aussi une forte résistance contre cette chasse aux immigrés. Les gens s'organisent pour protéger les immigrés. Les gens s'organisent dans les quartiers pour signaler les agents de l'immigration ou même organiser, ça s'appelle des désarrestations. Donc, en fait, enlève des mains, des griffes, on pourrait dire, des agents de ICE, hein, le service spécial d'immigration, enlever les immigrés. Il y a des manifestations très fortes. Et donc, ICE, en effet, arrête et essaye de déporter des gens, mais leurs propres rapports disent, en fait, que ça devient de plus en plus difficile, qu'ils n'arrivent pas à obtenir les quotas imposés par le ministère. Donc, il y a une résistance très forte. Et puis, il y a eu, là, juste avant les vacances, à New York, les primaires du Parti démocrate qui ont élu, au fait, comme candidat des démocrates, un gars qui se dit socialiste. Aux États-Unis, dire socialiste, c'est presque comme dire ici communiste, hein, et qui se dit pro-palestinien. Et il a gagné les élections internes, provoquant en fait une levée de boucliers de tous les milliardaires, de tout ce qui est de droite. Trump a même menacé de l'arrêter, il dit que ce n'est pas un socialiste, c'est un communiste, etc. Mais New York avait été gagné en 2024 au trumpisme électoralement. Et on voit qu'une bonne partie de sa base trumpiste vire à gauche. Donc il est possible de regagner cette base. Pour moi, ce sont deux ou trois signes très importants qu'il est possible de battre le trumpisme. On n'a pas regagné cette bataille, les Américains n'ont pas regagné cette bataille. Mais il n'y a pas qu'un virage à droite, il y a aussi un virage à gauche. Et c'est ça qu'il faut signaler. Et c'est que chaque poussée vers la droite, tôt ou tard, provoque une poussée vers la gauche.
Aussi.
Et c'est ça que je voulais souligner. Une situation de polarisation est plus que simplement un virage à droite dans la société mondiale. C'est ça le propos. Et c'était aussi un peu une indignation face à des camarades, pas seulement la gauche institutionnelle ou molle, mais aussi les camarades de la gauche radicale qui ne voient pas, veut dire, ces signaux à gauche.
Qu'ils ne les voient pas parce que quoi? Parce qu'ils ne veulent pas les voir ou ils ne les voient pas parce qu'ils sont rivés le nez sur cette droite extrême et extrême droite
Oui, je crois que tu viens de donner l'explication, c'est pour ça, oui. C'est-à-dire qu'ils ne la voient pas et qu'ils ne la prévoient pas non plus. Moi, je crois avec d'autres l'avoir prévu.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis prévu?
Prévu, c'est que tôt ou tard, un mouvement vers du trumpisme, comme en Italie, Meloni et autres, provoquera une réaction dans le sens contraire vers la gauche et plus vers la gauche. Et dans la situation où la gauche institutionnelle réformiste ne bouge pas, ben, ces voix de révolte sociale et politique vers la gauche s'exprimera d'une façon différente à travers les syndicats traditionnels, etc. Comme on voit en Italie et comme on voit en partie aussi en France ou dans d'autres pays. Et donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Sinon, on fait un exercice en autodémoralisation, en autoflagellisation.
Non, mais je comprends bien. Mais on n'est pas là pour, comment dire, pour se raconter des histoires qui ne seraient pas la réalité. Je veux dire, par là, quand tu dis ça, oui, ou sinon, c'est défaitiste. Bah, mais non, mais c'est la réalité. Comme tu dis, il y a autant d'histoire d'extrême droite que d'histoire de gens qui se soulèvent aussi, quoi. Voilà, ce n'est pas... comment dire? On ne se raconte pas des histoires, c'est la réalité.
Oui, tout à fait.
Ça fait comme si, quand tu justifies ça en disant « oui, parce que sinon, c'est démoralisant », mais désolé, c'est la réalité.
Oui, c'est la réalité, mais il y a aussi une réaction dans le sens contraire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire, on peut... Par exemple, dans le récent mouvement social en France... Le bloc-en-tout du 10 septembre et la journée d'action du 18 organisée par l'intersyndicale, ce qui est remarquable, c'est l'absence de l'extrême droite. Elle est absente. Elle ne dit rien. Marine Le Pen ne dit rien. Bardella ne dit rien. Ils ne sont pas sur le terrain. Ils ne sont pas sur le terrain de la révolte sociale. Mais eux prétendent être l'expression de la révolte sociale.
Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, là
C'est que probablement, le thème de prédilection de l'extrême droite en France, c'est la migration. Lorsqu'on lit les articles où on entend des rapports, des réunions qui se sont faites dans les villes, dans les quartiers, même dans les petits villages en France en préparation du 10 septembre, le mot migration n'apparaît pratiquement pas. Les gens disent non, on va pas se laisser diviser. Hein, c'est autre chose. Et donc, ça, c'est important à souligner. Et une partie des gens se rendent compte aussi que le Rassemblement national en France, mais en fait, on ne sait pas très bien quel jeu il joue. Est-ce qu'il soutient le gouvernement minoritaire de la droite? Il semble oui, il semble non. Ce n'est pas très clair. Tu vois? Et là, par contre, il y a un mouvement social qui émerge et qui dit non, on est contre ce gouvernement, on est contre Macron, c'est archi clair. Bam. Parce que ça répond à un besoin de rejet total du système politique. À nouveau, on n'est pas ici pour nier la montée de la droite ou de l'extrême droite. Mais je trouve aussi qu'une bonne partie de la montée de la droite ou de l'extrême droite, c'est la faute de la gauche. De la gauche molle, qui n'a pas répondu, veux dire, aux besoins sociaux, économiques, politiques de la population.
Mais parlons ici, parce que si t'es bien politisé comme ça, parlons ici par exemple de Bruxelles, quoi. Cette gauche écolo, PS, enfin moi j'ai des souvenirs dans les quartiers, de mettre le vélo, enfin tu sais, c'est une gauche bourgeoise, quoi, qui s'est embourgeoisée, qui n'est plus du tout en lien avec les gens, quoi, c'est ça?
Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je veux dire, c'est difficile de ne pas être d'accord. Ouais. Oui, qui n'est pas en connexion avec les véritables préoccupations. Quelles sont les préoccupations à Bruxelles? Ben, c'est 60 000 personnes, 60 000 familles qui sont inscrites dans une liste d'attente pour des logements sociaux. C'est les loyers, veut dire, qui deviennent impayables. Même dans les quartiers populaires, ils deviennent impayables. C'est la montée du chômage. C'est vrai aussi l'insécurité de plus.
Ça va avec, hein.
Tout à fait, ça va avec.
Il laisse pourrir d'ailleurs. C'est voulu.
Tout à fait. C'est ça les problèmes. Et la gauche réformiste, molle, bourgeoise, comme tu dis, mais ne répond pas, au fait, ou répond mal.
Mais comment ça se fait, ça, moi, toi qui est dedans depuis longtemps? Alors, comment ça se fait qu'on a...
Elle s'identifie très fortement au système. Elle ne peut pas s'imaginer un autre système que celui-ci. Ou simplement, peut-être, réformer ce système, le rendre plus humain, le rendre plus écologique, le rendre plus social. Mais peut-être qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'était possible.
Qu'est-ce qui était possible?
Un capitalisme social, humain. Mes parents ont connu l'ascension sociale. Ils venaient d'origine modeste, mais après la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de personnes, en travaillant dur, grâce à la sécurité sociale, les services publics, l'enseignement, presque gratuit, ben, ils pouvaient monter, ils pouvaient s'assurer un bon revenu.
Et quoi, ça, c'est grâce au capital?
Non, c'est grâce aux luttes qui ont été menées par... Mais le capitalisme pouvait s'offrir, pouvait se permettre des réformes à l'époque. Maintenant, il ne peut plus se permettre des réformes.
Pourquoi?
Parce que je crois, d'abord, la période de réforme sociale, c'était une période historiquement unique dans l'histoire du capitalisme. La période des années 50, 60, des années 70, puis on regarde les 100 ans avant, il n'y a jamais eu ça.
Jamais eu quoi?
Il n'y a jamais eu de période où il y a eu des réformes sociales aussi importantes qu'après la Seconde Guerre.
Mais comme quoi, par exemple?
La sécu. La sécurité sociale,
la santé,
la pension, la statutarisation des fonctionnaires.
Quoi tu dis?
Statutarisation, ça veut dire des
profs.
L'enseignement, je dirais pas gratuit, mais presque gratuit. En fait, mes parents ont pensé que leurs enfants, moi, j'allais vivre mieux que eux. J'ai pensé ça aussi de ma fille. Mes parents se sont rendus compte que je ne vivrais pas mieux que eux. Pas parce que je travaille moins ou je suis moins... Et ma fille non plus. Et donc, je crois qu'il y a une prise de conscience que les générations d'aujourd'hui auront beaucoup plus difficile que les générations d'avant. Parce que c'est ça l'essence du capitalisme. C'est qu'il est retourné dans ces périodes de crise.
Mais justement, c'est pas pour ça que l'extrême droite revient et le fascisme revient.
Non, c'est pas pour ça, mais parce qu'en effet, la gauche ne donne pas une expression radicale à cette colère sociale. Elle dit, qu'est-ce qu'elle dit, fondamentalement, cette gauche molle? En fait, d'abord, elle collabore à l'austérité. Elle participe à l'austérité. Elle un peu plus molle que la droite.
Tu veux dire qu'elle est d'accord pour faire des politiques austères?
Tout à fait.
Non, mais écoute-moi bien. Mais après, on peut ne pas être d'accord. Hein. Moi, ça, j'aime bien aussi. Hein. Mais que l'extrême droite et le fascisme reviennent parce que l'élite du fric, quoi, perd ses avantages. Et donc, il faut diviser de nouveau la population, quoi. Parce que c'est les gauches molles, comme on dit, évidemment. Mais il y a aussi, tu sais, quand on parle des médias qui sont aux bottes de milliardaires, et ben, et donc ils peuvent influencer. Moi, je suis étonnée de voir à quel point des gens qui sont pas politisés tiennent des discours, des propos racistes. Alors, fondamentalement, ils sont sûrement pas malades du racisme, tu vois. Ça, c'est une infime, j'ai toujours pensé, minorité. Mais ils sont conditionnés parce qu'ils ont vu la télé, parce qu'on racontait au journal, parce que, tu vois ce que je veux dire?
Oui, je suis d'accord avec toi. Je crois que le système, les médias, l'idéologie dominante, en effet,
flux, quoi.
Et transforme ou dirige cette colère sociale, cette frustration qui est totalement justifiée vers les immigrés.
Que peut-être elle n'avait pas besoin de le faire, j'invente, moi, il y a 15 ans. Tu comprends? Maintenant, comme cette élite de l'argent voit justement qu'il y a plein de manifestations, il y a plein de luttes, les gens sont de plus en plus mécontents, alors ils relancent leur carte facho, quoi.
Ils veulent diviser pour mieux régner. Ouais. C'est un vieux slogan, c'est une vieille tactique de ceux qui gouvernent. Ça, certainement. Et on apprend aux gens de taper sur les gens en dessous d'eux et pas au-dessus d'eux.
Oui, c'est ça.
Mais donc, celui qui est au chômage, celle qui est malade de longue durée, celle qui est une drôle de couleur, celle dont le statut est inconnu, bah, c'est eux et elles les problèmes. Voilà.
Mais t'es d'accord, c'est la gauche molle, mais c'est aussi... C'est aussi les politiques de droite, quoi, qui sont occupées à ouvrir la porte à l'extrême. Enfin, voilà, tu vois, ça se répète, quoi, dans l'histoire.
La droite ni la gauche molle ne sont des remparts contre l'extrême droite. C'est clair. Un exemple passe par la tête, l'Allemagne. L'ancienne Allemagne de l'Est. Après la grosse crise financière de 2008... Le parti Die Linke, parti, ça veut dire la gauche, qui est l'ancien parti communiste en partie de l'Allemagne de l'Est, avait gagné les élections un peu partout dans les Länder de l'ancienne Allemagne de l'Est. Mais ce parti s'est très vite institutionnalisé, s'est très vite identifié avec l'ordre établi, avec le discours dominant, avec les privilèges aussi, petits ou grands. Et c'est pas un hasard que c'est dans ces Länder que l'AFD, l'extrême droite, monte le plus électoralement. Ça ne veut pas dire que les gens sont intrinsèquement d'extrême droite ou intrinsèquement racistes, c'est pas ça. Il y en a certainement qui sont irrécupérables, ça fait aucun doute. Mais quand la gauche n'offre pas une alternative, dans la situation de colère sociale, où survit une bonne partie de la population, ben oui, par désespoir, ils se retournent vers la droite et l'extrême droite. Et donc, c'est Gilles Perrault, un écrivain français, qui disait, au fait, leurs victoires sont faites de nos reculs. Leurs avancées sont faites de nos reculs.
Leurs avancées à qui?
Les avancées de la droite, ou de l'extrême droite, plutôt, sont faites de nos reculs. Et donc, il dit non, c'est la gauche. Hein, parce que nous, on recule. Parce qu'on recule sur nos principes, leurs principes. On recule sur l'idée de transformation.
Mais c'est plus de gauche, quoi. Comment ça se fait qu'elle est devenue molle, toi qui connais un peu cette histoire? Parce qu'on parlait de la Seconde Guerre mondiale, tu expliquais ta famille, tes parents, toi, le fils et puis ta fille. Donc, c'était intéressant ce que tu disais. Tu disais, on pouvait accepter le capitalisme social, quoi. C'est ça que tu dis?
Oui. Et donner l'impression de progrès.
Mais tu ne crois pas qu'à ce moment-là, une fois que la Seconde Guerre mondiale est finie, que tout se rejoue au niveau politique, là, que tu ne crois pas que là, déjà, on aurait pu jouer à autre chose qu'en remettant la couche du capitalisme, quoi. Parce que c'est important de le dire, ça aussi. Ça fait comme si on n'avait pas le choix, il n'y avait pas d'autre alternative.
D'accord, en fait, il faut se rappeler ou dire qu'une bonne partie des grosses réformes sociales d'après la Seconde Guerre mondiale, non seulement sont le résultat de lutte ouvrière, de lutte sociale, mais aussi des concessions faite par le système par peur d'une révolution. Parce qu'il y avait des situations révolutionnaires en France, en Italie.
Oui, c'est important de le dire, parce que ça, souvent, on l'oublie aussi. Ça veut dire que ceux là-haut, ils étaient bien, ils ont dit « Ok, on va un peu partager la richesse, là, parce que sinon, ça va pas le faire. »
Il faudrait lâcher du lest, sinon on risque de tout perdre. À nouveau, l'idée de changer pour ne rien changer, fondamentalement.
Est-ce que là, on s'est pas fait couillonner, quoi ?
Totalement d'accord.
Parce que regarde notre société ici. On parle ici, à Bruxelles. Enfin voilà. Alors je le dis, mais tu vas voir comment tu l'entends. Je trouve qu'on est devenu mais fondamentalement con, quoi, avec nos 3 voitures, nos 2 maisons. Je veux dire, les gens sont devenus cons, quoi. Alors, je sais que c'est du conditionnement. On va pas réfléchir pourquoi ils deviennent cons. Je sais que tout ça, ça peut très vite changer, mais on n'est plus capable de grand chose, quoi. On va vite devant sa télé, avec ses 3 téléphones.
Tu vois, tout se sert, en effet, à se bercer d'illusions.
C'est pour prendre l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, de dire que l'élite du fric, elle est d'accord de lâcher du lest pour qu'on partage un peu cette richesse, quoi, qu'on ait des bouts. Mais je veux dire, ça nous a rendu bien cons aussi, quoi.
Oui, tout à fait. Parce qu'à ce moment-là, on va dire, si tu dis, en années 50-60, le capitalisme, c'est mauvais, c'est l'exploitation, les gens diront, oui, peut-être, mais j'ai 2 bagnoles, j'ai une TV, couleur maintenant, je peux partir en vacances, je peux envoyer mes enfants à l'UNIF, etc., etc.
On est déconnecté de la réalité, non ?
Oui.
Non ?
Oui,
parce qu'on parle.
La réalité semblait contredire la critique du capitalisme. Mais depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, la critique, disons, communiste ou marxiste, correspond plus en plus avec l'expérience que vivent les gens. Dans le sens où, mais en fait, ça devient de plus en plus difficile d'envoyer nos enfants à l'UNIF. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir un boulot stable. Les jeunes, là, qui quittent l'école, ben oui, ils ont du boulot, mais c'est des flexi jobs. Ils rament, c'est du précaire, sur du précaire, sur du précaire. Comment est-ce qu'ils peuvent s'imaginer obtenir un prêt pour acheter un appartement? Ça devient plus difficile. Même louer tout seul, ça devient difficile. Et donc, ça, c'est la base d'une remise en cause, ou d'un début de remise en cause du système capitaliste. Ce qui fait que notre discours, il correspond beaucoup plus à l'expérience qu'ont aujourd'hui les gens, surtout les jeunes, qui sont sans préjugés, ou qui ont beaucoup moins de préjugés, ou qui sont prêts à accepter des nouvelles idées plus audacieuses, plus révolutionnaires, etc., que ceux qui sont déjà un peu...
Oui, qui ont peur de perdre, carrément.
Ils perdent beaucoup de choses, voilà, exactement.
C'est ça, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que du coup, regarde... On est à 45 minutes, ça file. Hein. Moi, je trouve ça trop passionnant. Hein.
Ok.
Je sais pas, je lâche ça comme ça. Est-ce que tu crois qu'on pourrait encore aborder comme ça Parce que du coup, ça fait 1 heure d'émission, là, à peu près. Dans 5 minutes, on a fini normalement.
Oui.
Mais voilà, on en est là. Soit on continue un peu à creuser. Et alors, du coup, ça ferait 2 émissions. Mais du coup, ça veut dire qu'on est reparti pour 45 minutes. Est-ce que... 45 minutes, quoi.
C'est possible, mais là, j'ai un autre rendez-vous.
Ah, merde.
Désolé.
Ah ouais, ouais. Ben alors, ça va pas être possible.
Oui, ou à l'autre moment. Hein.
Ouais, ouais, c'était marrant de continuer.
Mais continuons.
Ben oui, mais bon. Bonjour. Ça, c'est trop bien, c'est la dame du monsieur qui est là. Non, on s'est déjà vu, hein.
On se connaît.
Mais c'est de où, comment?
On s'est croisés. Ça va?
Ouais, j'enregistre bien, moi, quand c'est comme ça. On parlera après, alors. Ça va? Ça va, hein, je ne crée pas du bisprouille, là, parce que tu disais que tu avais fini.
Oui, mais j'allais à une autre réunion.
T'arrives, quoi.
Hein?
T'arrives, quoi.
J'arrive, oui. Non, ça va être coupé, t'inquiète. Ou pas.
Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Mais vas-y, vas-y, dis-le. Qu'est-ce que tu cherches? Des clés?
Je cherche...
Un livre?
Ça y est, je sais.
Ok. Oui, comme ça, on peut un peu encore gratter, quoi. On en était, du coup, à la Seconde Guerre mondiale, le fait que... C'est comme si elle n'avait pas le choix, c'était quand même un capitalisme de gauche, un capitalisme social.
Oui.
Hein?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé là qu'on aurait pu... Ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ah oui, bah, on l'a dit, la gauche, la gauche s'est fait récupérer.
Oui, elle s'est récupérée.
Elle s'est fait embourgeoiser.
Tout à fait, elle a accepté le système, elle a accepté des concessions en échange de la survie du système, simplement. Le système a survécu, pas tellement par la répression, mais par l'autorisation qu'ont donné les partis de gauche communistes institutionnels, pour utiliser ton terme, et les sociodémocrates, la gauche réformiste, socialiste, qui ont accepté le système, en fin de compte.
Pourquoi? Parce que ça donnait plus d'objets, ça donnait une sécurité.
Ils ne croyaient pas dans la possibilité de changer la société.
Parce que
ils ne croyaient pas dans la possibilité de changer la société. Je crois que c'est...
Mais c'est quoi ce changement de la société? Ah, oui. Ça veut dire quoi? De plus d'égalité de...
Oui, ça veut dire quoi? C'est mettre fin à un système économique basé sur la recherche maximale de profit, où tout est réduit à l'état de marchandise. Aujourd'hui, ça prend des formes extrêmes.
On vendrait sa mère.
Voilà. Tout est marchandisé. Hein? Tout est marchandisé. Et donc, ça veut dire aussi, c'est un système économique où, en effet, ce sont pas des. Où l'économie n'est pas aux mains de personnes privées. Les entreprises, les ressources technologiques, scientifiques, les terres, les machines seraient aux mains de la population. On parlait de socialisation, au fait des. Pour dire un moyen de production,
oui.
C'est ça auquel je pense. Et une gestion démocratique, pas par des bureaucrates, mais par la population, une forme d'autogestion, en fait.
Oui, l'objectif n'est pas de faire du fric, mais l'objectif est de vivre, quoi, et de partager. Moi, il y a un excellent... Peut-être toi qui... Ça dure 5 heures, ce film. C'est en noir et blanc, et c'est l'histoire... de la commune.
Je l'ai pas vu, mais j'entends.
Est-ce que tu vois, Non, mais c'est un vieux truc, hein.
Oui.
Mais c'est fait incroyablement bien foutu pour comprendre c'est quoi le communisme, quoi. Oui. Enfin voilà. On parle aussi de que il y a comment dire. Il y a plus du travail, que ce soit besogneux. C'est aussi la libération du travail, c'est parce qu'il y a des tâches à faire, c'est normal de les faire.
Ah oui, tout à fait, c'est la libération du travail salarié.
Mais là, on en est loin, quoi. Là,
on est très loin.
C'est hallucinant, ça.
Oui, mais le système de rentabilité, il n'est pas suffisant en soi. C'est-à-dire que Enfin, moi, j'ai cru comprendre que ce système de production, le fait d'avoir les moyens de production, donc rentrer dans une structure de production et pour pouvoir avoir cette reconnaissance, cette indépendance, va peut-être nous mener aussi dans une sorte d'aliénation à mesure où on va devoir, notre reconnaissance sera au même niveau que les autres qui fonctionnent dans un système de rentabilité. Il faut qu'on rajoute, moi, je crois que c'est important, le rajout de cette conception sociale ou artistique qui fait qu'il y a un lien entre cette rentabilité et nos intentions humaine et d'allier la rentabilité à la création pour trouver autre chose
à la base,
cette aliénation qui va nous enfermer encore dans ce truc de produire, travailler, et plus d'espace.
C'est un autre système, ça. Tu donnes à une femme les moyens de fonctionner autrement. Tu lui donnes, elle a moins de temps de travail. Et le problème, c'est que le temps qui lui reste pour faire autre chose, pour penser à autre chose, ça, elle est très démunie par rapport à ça. Donc, il y a tout un travail aussi d'éducation qui doit se faire aussi au départ chez les enfants et qui devrait se mettre en place très très vite parce que on est
justement l'idée de la coopérative, c'est aussi ça, c'est aussi mieux se répartir les tâches, se libérer du temps et ensemble pouvoir accéder à d'autres moyens, d'autres connaissances, l'espace de liberté, etc. Et ensemble. Par la discussion, par le collectif, émerger à d'autres choses. Quoi.
La raison essentielle que le travail, c'est la seule identité, et que si on ne travaille pas, on n'existe pas. Parce que actuellement, c'est ça. C'est pas qui tu es, c'est qu'est-ce que tu fais. La première question qu'on te pose dans la vie, c'est qu'est-ce que tu fais.
Oui, mais là, on te demande. Alors, ça, cette question-là, moi, je suis en prise avec elle souvent, puisque je suis au chômage depuis longtemps et que je n'ai pas de métier, je précise. C'est parce que après on te dit qu'est-ce que tu cherches, c'est pas facile. C'est que qu'est-ce que tu fais, c'est pas quelle est ton activité, ce que tu peux revendiquer comme ça. Moi je fais telle chose, je sais pas, j'enfile des perles ou je sais pas. Bon, tu fais quelque chose. C'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est quel est ton statut social professionnel. Et ça, c'est ça qui est douloureux dans cette question, parce que tu dis mais attends, passe un petit peu de temps avec moi, même 5 minutes. Tu vas peut-être même pouvoir imaginer tout ça et puis même me filer des idées, quoi, puisque moi j'ai l'air d'être un petit peu en panne avec cette question.
Donc je suis pas d'accord avec ce que tu dis là, parce que je trouve que nous, les bonnes femmes, on a même pas besoin de nous demander ce que tu fais, parce que c'est une évidence. De toute façon, même si on travaille, c'est un sous-travail. Et la priorité, c'est de t'occuper des marmots, du linge, de supporter ton bonhomme. Et qu'à la limite même, moi je suis couturière, qu'est-ce qu'on en a à foutre ?
Eh ben, j'aimerais apprendre.
J'aimerais apprendre.
Pour pouvoir choisir.
Voilà, tout à fait. Là, je n'ai pas les moyens de choisir, je ne sais rien faire.
D'autres ?
Et peut-être que j'ai pas envie de travailler. Moi, j'aimerais bien avoir le temps de penser.
Ouais, c'est bien.
Moi aussi.
Et puis de...
Aujourd'hui, on n'a pas le temps de penser. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps de penser. Le projet, c'est que tu n'es le moins de temps de penser possible.
C'est la même chose, quoi.
Il y a un au-delà de tout ça, quoi. Le préalable, effectivement, cette histoire de coopérative, c'est de mettre en commun les moyens de production, de maîtriser tout ça, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est affranchir complètement le travail, s'affranchir du travail, aller bien au-delà. La vie, c'est ailleurs. C'est pas le travail.
Et donc ça, c'est un petit extrait minuscule de rien du tout du film de Peter Watkins, La Commune, qui a été réalisé en 2000 et qui dure 5h40 minutes, quoi. Il y a aussi une version plus courte et ce film est génial. Vraiment, autant dans le fond que dans la forme, c'est génial. On peut y avoir accès gratuitement sur le net, Peter Watkins, La Commune, et aussi dire que ce monsieur est mort le 31 octobre à l'âge de 90 ans, là, tout de suite, il est mort en 2025, quoi, hier. Voilà, il avait 90 ans et sacré bonhomme, Peter Watkins.
Mais je crois qu'il y avait, après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la société... en Europe, en tout cas, était grosse de possibilités révolutionnaires. Il y avait un rejet du fascisme, il y avait une compréhension que le capitalisme avait engendré le fascisme, que les crises économiques des années 30 étaient responsables de la montée de Hitler, de Mussolini, de Franco, ou de nos fascistes belges, français, grecs, etc. Il y avait cette compréhension très aiguë. Il y avait l'idée de plus jamais ça et de rejet.
Mais c'était hypocrite déjà à l'époque. Hein. Je sais pas si parce qu'on disait plus jamais ça et en même temps on allait là la Palestine en 1948. Un bon exemple. Quoi. C'est hallucinant.
On reste dans un système.
Donc c'était hypocrite quoi.
Oui.
Le plus jamais ça, il était quand même hypocrite. Tu vois. Ça dépend où tu te situais sur la carte, si t'étais palestinien, si t'étais arabe, si t'étais français. Tu vois, là, ils ont encore bien divisé les gens, quoi.
Dans le chef des dirigeants, c'était clairement hypocrite. c'était un hameçon, c'était pour rouler les gens. Mais ce sentiment était très puissant parmi la population, et surtout la population travailleuse. Cette occasion-là était ratée parce que les partis socialistes et partis communistes institutionnels de l'époque ne croyaient pas dans la possibilité de changer la société.
Moi j'aime bien quand tu dis pourquoi, parce que j'ai déjà rencontré des gens, alors plus âgés c'est vrai, mais c'est comme si c'est pas possible de la changer, mais c'est du leurre quoi, c'est une croyance qu'on a. C'est quoi ce truc de pas possible?
Je ne sais pas.
Toi, tu crois que c'est possible de la changer?
Totalement.